Québec se lève.
La chronique historique de François Thérien. Voici le studieux Sieur de Thérien.
Oh que oui, mon Sieur de Thérien, comment vas-tu?
Gentlemen, gentlemen, bonjour.
Hey, j'avais hâte, François, à la chronique d'aujourd'hui parce que tu vas nous raconter l'histoire de l'Université Laval. Et puis, juste en parcourant un peu le plan que tu m'as envoyé, j'ai réalisé que on réalise pas tout le temps l'envergure de cette institution-là, même si on le sait, on est beaucoup de monde qui sont passés par là, mais c'est une institution vraiment qui a une place indélébile dans l'histoire de la région.
Ben, en fait, quand l'Université Laval a été fondée le 8 décembre 1852, c'était la première université francophone au Canada. Ben, faut dire que le pays n'existait pas encore légalement, là, mais on se comprend. 1852, c'est quand même 15 ans avant la Confédération qui fondait le pays. Mais les anglophones, eux, sur le territoire du Canada, il y en avait déjà 5 universités. Alors, ça faisait un petit bout de temps que les gens du séminaire de Québec, ce sont eux là, qui ont mis sur pied l'Université Laval, se disait, ben là, si on veut suivre la parade, ils ne l'ont pas dit de même, là, mais si on veut suivre les autres, ça nous prend une université, il faut former une élite ici aussi. L'élite. Sans ça, où s'en va-t-on? Alors, ça a pris du temps, mais ils ont finalement fondé cette université-là. Faut dire que c'était compliqué pour deux raisons. Alors, comme le Canada n'existait pas vraiment, il n'était pas souverain, ça prenait l'autorisation de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre devait donner son accord pour la fondation d'une université. C'était la reine Victoria qui était reine à l'époque et elle l'a accordé. Et ça prenait aussi, comme c'était une université catholique, ça prenait le OK du pape. Le pape devait donner mon son Dieu. Aval aussi. Alors, c'était compliqué. Là. Tu peux pas dire, bon, ben go, on part, on se fait une université. Là. Il y a des gens importants qui devaient dire, OK, vous pouvez y aller. Alors, donc, en 1852, c'est chose faite. On va construire deux grands bâtiments tout près du séminaire dans le Vieux-Québec pour la loger. Je vous ai parlé de ces bâtiments-là un petit peu plus tôt cette saison. Là. Ils ont été construits par l'architecte Charles Baillarger.
Oui.
Et à l'époque, l'Université Laval ne compte que 4 facultés. Il y a le droit, les arts, la théologie, évidemment, parce qu'on veut former des prêtres, et la médecine. Puis les étudiants sont peu nombreux. Là. Les premières statistiques que j'ai réussi à recenser, c'est en 1902. Donc, 50 ans après la fondation de l'université, il y a 308 étudiants.
Au palais.
Sont 308. Et pourquoi lui donner le nom de Laval? Ben, c'est en l'honneur de Monseigneur oui. François de Laval, premier évêque de Québec, qui avait fondé le séminaire. Alors, le séminaire a décidé d'appeler l'université Laval.
Fait méconnu, ouais. François, l'université a déjà eu une espèce de un pavillon, si tu veux, à Montréal.
Oui, une succursale, ouais, c'est drôle ça. En 1878, la succursale montréalaise de l'Université de Laval est ouverte. Celle-ci va devenir indépendante en 1920 sous le nom de l'Université de Montréal. Donc, l'Université de Montréal, c'est un rejeton de l'Université Laval. Donc, les carabins
yes!
sont un rejeton du Rouge et Or.
Oui, bravo, enfin, quelqu'un qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. J'adore ça.
En fait, là, c'est la rivalité des diocèses qui pimente la fondation et l'éventuelle indépendance de cette succursale-là. C'est que l'évêque de Montréal, lui, souhaitait une université indépendante pour sa ville, mais c'est l'évêque de Québec qui a eu l'oreille du Vatican. Lui, l'évêque de Québec, était Monseigneur Tachereau à l'époque. Il disait, ben non, 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 on va ouvrir, nous autres, on a de l'expertise, là. On va ouvrir une université à Montréal. Puis le pape, il a dit, OK, on fait ça. Mais là, à Montréal, de plus en plus, on souhaitait avoir une indépendance totale au niveau de l'université. Puis l'évêque de Montréal, à cette époque-là, Monseigneur Brouckési, a finalement eu gain de cause auprès du Saint-Siège. Et le gouvernement québécois a endossé le tout l'année suivante. Et il y avait une loi. Donc, en 1920, l'Université de Montréal est née et il n'y a plus de lien entre les deux. Là, on tombe dans les guerres mondiales qui ont changé le visage et pas à peu près de l'Université Laval.
Comme bien des affaires, d'ailleurs. Là, c'est ouais. souvent le moment dans tes chroniques où les guerres mondiales ont propulsé ou détruit certaines affaires. Mm-hmm.
Faudrait que je recense le nombre de fois où je parle des guerres mondiales dans mes chroniques. Mais
tout le temps.
C'est quelque part, c'est un incontournable parce que ça a vraiment tout changé. Déjà, là, pour l'Université Laval, l'industrialisation du Québec avait changé des choses. Ça avait poussé l'université vers un enseignement davantage tourné vers la modernité. La Première Guerre mondiale, elle, va favoriser l'entrée des sciences et de la technologie à l'université. Et puis jusque-là, là, l'Université Laval, c'était un établissement d'enseignement point à la ligne. Il n'y avait pas d'autre chose qui se faisait là. Mais après la Première Guerre mondiale, là, dès le début des années 20, la recherche commence à faire sa place à l'Université Laval. Puis au fur et à mesure des décennies, ça va augmenter, comme dans pas mal toutes les universités, je vous dirais. Puis aussi, les années 20 sont synonymes d'expansion. Puis celle-ci va durer plusieurs décennies aussi. Il y a plusieurs facultés et écoles qui vont s'ajouter à celles du début. Je vous ai parlé des sciences et génie, l'agriculture, les lettres, la philosophie, la musique. Les sciences sociales vont faire leur apparition dans ces années-là. Là, rapidement, le vieux Québec devient beaucoup trop petit et les différentes écoles ou facultés doivent se loger un peu partout dans la ville. Dès 1925, là, il n'y a plus de place dans les édifices de l'Université Laval, là, juxtaposés à ceux du séminaire de Québec. Puis le vieux Québec est à l'étroit, il n'y a plus de place non plus. Alors, tranquillement, l'université commence à sortir des murs, mais il va falloir attendre les années 50 avant qu'un campus universitaire, que le campus universitaire actuel de l'Université Laval voit le jour. Il y avait des plans qui avaient été mis à jour dès les années 30. Là. On avait commencé à se dire, ça va prendre un campus parce que ça n'a plus de bon sens. Là. Les écoles sont toutes séparées à gauche et à droite. Dès les années 30, on s'était penché là-dessus. Mais la crise des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale ont forcé la mise sur la glace de ce projet, faute de financement, entre autres.
Ah oui.
Mais après la guerre, le projet est remis sur les rails et rapidement. Les dirigeants de l'Université Laval penchent pour un campus à l'américaine, c'est-à-dire un endroit là où tous les bâtiments, les écoles, les facultés, alouettes d'une université sont réunis. Puis ce sont des terrains vacants à Sainte-Foy à l'époque qui sont choisis, les terrains actuels du campus. Ils se situent tout juste à côté de celui où doit être érigé le nouveau grand séminaire.
Oui.
Et celui-ci, c'est maintenant le pavillon Louis-Jacques Cazot.
Oui, le pavillon Louis-Jacques. Le labyrinthe Louis-Jacques Cazot. Mmh.
Ouais, c'est ça, qui n'a pas été tout à fait conçu comme un bâtiment pour accueillir de l'enseignement. C'était le grand séminaire à l'époque. Finalement, tranquillement, il est devenu un pavillon rattaché à l'Université Laval. Le déménagement va se faire tranquillement à compter de 1948. Les différents pavillons seront construits successivement, la plupart dans les années 60. La majorité des pavillons là, qui sont là sur le campus ont été construits dans les années 50. Il y en a quelques-uns, évidemment, qui datent des années 50. Le pavillon Abitibi-Price, entre autres. Le Palacis Prince aussi, ces deux-là, c'est 1950-1952. Puis le plus vieux pavillon, c'est le pavillon de l'Est. Lui, il date de 1940. Le pavillon de l'Est, lui, pourrait dire, si on parle à dos, il est un peu rejet. Il n'est pas tout à fait sur le campus. Il est de l'autre côté du chemin Sainte-Foy, pas très loin là, du champ de pratique de golf qu'on a érigé.
Entre le PEPS et la rue Mirand, à peu près, là.
À peu près, oui, on peut dire ça. Il est là, le pavillon de l'Est. Lui, il a été construit en 1940.
Ouais, c'est le plus vieux de la gang. J'ai été à l'université, je savais même pas qu'il y avait un pavillon là, puis j'ai de la misère à identifier où c'est qu'il peut être.
Il est du côté nord, du côté nord du chemin Sainte-Foy.
Oui, c'est exactement. Ça, mais je pensais que c'était des logements, moi, qui étaient là.
Non, il y a un pavillon là. Moi, je le sais parce que j'allais reconduire mon frère qui étudie en économie, là.
Ah ben, vous me l'apprenez ce matin. J'apprends tout le temps des affaires dans ta chronique, chez Ordotérien, mais là, ça, j'apprends ça, le matin.
Ben, vois-tu, moi, personnellement, j'ai fréquenté l'Université Laval, j'ai jamais mis les pieds dans le pavillon de l'Est, puis je pense que la majorité des étudiants qui ont fréquenté l'Université Laval, soit ne le connaissaient pas, ou ont jamais mis les pieds dedans non plus. Alors, à cette époque-là, là, on est rendu, le nombre d'étudiants tourne autour de 4000. Le chiffre au centenaire de l'Université, en 1952, il y a 4000 étudiants. Puis pendant ce temps-là, ben, on continue à ériger des bâtiments. Le PEPS, qui a été construit en 1971, sera un des derniers de la lignée. Il y a eu d'autres constructions ou modernisations d'édifices déjà construits qui vont être faites, surtout dans les années 90 et 2000. Le plus important étant le chantier du Super PEPS, dont on a tant entendu parler. Il y a eu le Stade TELUS aussi qui a été construit à côté du stade de football. Là. Dans les années fin 90, début 2000, là, il y a un bouillonnement qui se fait, puis il y a des nouveaux pavillons qui sont construits. Ils sont pas aussi gros pour la majorité que les premiers, mais quand même, là, il y a une modernisation du campus qui a été faite à ce moment-là.
Laisse-moi deviner, François. Là, on a les premiers pavillons dans les années 50, 52, après la Première Guerre. Après ça, on doit arriver... après la Première Guerre, la Deuxième, excuse-moi. On doit arriver proche des années 60, de la Révolution tranquille bientôt, là, j'imagine.
Ben, on est dedans, là, parce qu'il faut parler de la Révolution tranquille qui va avoir un impact profond sur la vocation de l'Université Laval. Et l'Université, dans le fond, suit la même courbe que l'Éducation au Québec. Elle devient de plus en plus laïque et publique. Tranquillement, elle s'affranchit de la tutelle du séminaire de Québec. C'était déjà en marche depuis quelques années, là, mais en 1971, là, il y a vraiment une séparation total qui se fait, c'est l'élection, entre autres, du premier recteur laïque de l'université. Parce que pendant toutes ces années-là, là, pendant 120 ans, c'était tout le temps un prêtre qui était le recteur de l'Université Laval. Mais là, il va y avoir un laïc qui va être élu en 1971. Il s'appelle Kerwin Larkin. C'est un anglophone originaire de Québec, professeur de physique à l'Université Laval, qui avait étudié aussi à Laval. Et ce monsieur-là, il deviendra plus tard président de l'Agence spatiale canadienne. Alors, c'est lui, Kerwin Larkin, qui a été le premier recteur laïque de l'Université Laval en 1971. La démocratisation de l'enseignement va se concrétiser par une explosion des inscriptions, principalement chez les femmes. De 10 000 étudiants en 1960, quand même, là, de 52 à 60, il y a eu une bonne augmentation.
Ça a plus que doublé.
On est passé de 4 000 étudiants à 10 000. Il y en aura 15 000 en 1980, 25 000 en 2000. Et aujourd'hui, on est arrivé à peu près 45 000 étudiants. Puis aussi, je fais une petite parenthèse sur l'apport des étudiants étrangers. Autour de 7 % des inscriptions depuis quelques années, ce sont des étudiants étrangers. Mm-hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, sur les 45 et quelques mille étudiants qu'il y a, ben, il y en a 3 000 qui viennent de l'étranger. Puis eux autres sont payants parce qu'ils payent leur session pas mal plus cher que la personne qui est originaire du Québec.
Ben, ils payent souvent le prix qu'ils paieraient chez eux. En tout cas, je sais qu'il y a des ententes avec certains pays, notamment en France. Les Français payent le prix qu'ils paieraient s'ils étaient en France. Et relativement au Québec, un étudiant québécois qui irait étudier en France paye le prix qu'il paierait s'il était au Québec.
Et la pandémie fait un trou dans leur budget. Là. C'est un manque à gagner important là, dans leur budget à l'université, les étudiants étrangers.
Exact. Parce que parlons-en un petit peu du financement qui a changé aussi, là, parce que l'Université Laval devient tributaire des gouvernements à partir du moment où elle devient laïque. Tributaire des gouvernements et par la suite des donations ou des commandites privées. Alors c'est pour ça que l'apport des étudiants étrangers, c'est pas rien, parce que René, si vous me permettez l'expression, l'université, ça coûte cher avec la recherche là-dedans. Alors de l'apport en argent, ça en prend. Et c'est pour ça que les donations privées et commandites privées sont de plus en plus importantes. On voit de plus en plus de pavillons qui ont un nom d'entreprise, le Stade TELUS, le pavillon Alphonse Desjardins. Alors c'est ça, là, c'est de l'argent qui rentre dans les coffres de l'université qui permet de donner ses services.
Puis terminons, François, avec les grands professeurs, parce que il y a quand même de grandes figures qui ont enseigné à l'Université Laval.
Ouais, ben il y en a plein là. Je vous ai parlé, c'est il y a deux semaines que j'ai fait la chronique sur Robert Bourassa, qui a enseigné un petit bout de temps à l'Université Laval là, entre ses deux mandats de premier ministre. Jean-Paul Lallier était professeur là. Il y en a plein, mais il y en a un en particulier dont je veux vous parler, c'est Georges-Henri Lévesque. Georges-Henri Lévesque, c'est un prêtre dominicain. C'est lui qui a fondé l'École des sciences sociales en 1938.
Okay.
École qui est devenue une faculté en 1943, pas longtemps après. Georges-Henri Lévesque, on l'a surnommé le père de la Révolution tranquille. Mais lui-même, il aimait pas ce titre-là. Oui, il a formé beaucoup d'acteurs qui ont été des acteurs principaux de la Révolution tranquille. Mais lui, disons que la tournure que ça a pris, il a pas acheté ça complètement, mais il s'opposait. Dans les années 50, là, il s'opposait à Maurice Duplessis et il a même formé les premiers dirigeants syndicaux issus de l'université. C'est lui qui les a formés. Puis Maurice Duplessis et plusieurs membres du clergé ont tenté de mettre fin à sa carrière et même de faire fermer la faculté parce qu'on voyait la tangente que cette faculté-là prenait, puis ça passait pas auprès des conservateurs religieux. Lui, son but, c'était de rendre la société plus humaine et démocratique, puis sa contribution en ce sens-là a été reconnue au Canada, mais aussi partout dans le monde, parce que lui, il a été doyen de la faculté jusqu'en 1955, je pense, mais il s'est pas arrêté là. Alors, en 1955, il était dans la cinquantaine, c'est un monsieur qui a vécu longtemps. Il est né en 1903, il est mort en 2000, donc il a vécu 97 ans.
Hey.
Puis après avoir été doyen de la faculté des sciences sociales, il s'est impliqué dans plein d'autres universités et organismes voués à la modernisation et à la démocratisation de la société. Alors, c'est un grand, grand monsieur. Puis c'est un des piliers de l'Université Laval. Quand on dit là, ça prend des hommes hors normes pour fonder et donner une direction à une institution aussi prestigieuse que l'Université Laval, ben Georges-Henri Lévesque en est un.
Hey, merci François, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Fait qu'on se reprend la semaine prochaine, les gars.
Oui, monsieur. Hey, puis petit erratum aussi, parce que nos auditeurs, c'est l'élite. Nos auditeurs sont des érudits.
Oui.
Le gars, le premier recteur, il s'appelait pas Kerwin Larkin. Sais-tu comment il s'appelait? Il s'appelait Larkin Kerwin.
Kerwin. C'est ça, je pense que j'ai
tu as viré ça de bord.
Larkin Kerwin, excusez-moi.
Ouais, c'est ça.
Kerwin. Larkin Kerwin était le premier recteur. Ben oui, j'avais marqué Larkin Kerwin, mais je sais pas pourquoi. Kerwin
Larkin. Hey, merci, merci François, sieur de Terrien, mesdames, messieurs. François Terrien, très, très studieux personnage. À la semaine prochaine. Que Québec se lève.